Bonjour et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant les deux dernières semaines. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 3 où nous parlerons des actualités du 5 mai au 15 mai 2015, date d'enregistrement de ce numéro. Je suis Axel, votre hôte durant cette émission, et j'ai le plaisir de recevoir en invité, une nouvelle fois comme pour le premier épisode, on retrouve Eddy du podcast Movies Nerd, et vous pouvez le retrouver sur moviesnerd.net, etc. Salut, ça va ?
Salut, ça va.
Et on a aussi Morgan, donc vous êtes habitué maintenant, il est dans les trois émissions, donc au bout d'un moment je pense que vous le connaissez.
Un récurrent quoi.
Salut, ça va ?
Ça va.
Ouais. Ok, donc on a quand même pas mal de news dont on veut parler. Et puis à la fin, on vous fera une petite annonce concernant Parlons Cinéma, la date de parution, etc. Ce sera en fin d'émission. Pour l'instant, on va tout de suite commencer dans le programme parce qu'il est assez chargé quand même. J'annonce déjà qu'on aura un mini débat et un débat en fin de podcast, donc ça risque ça risque de débattre assez violemment. on va commencer avec l'annonce qui fait plaisir à Morgan, et celle-là, ouais. Celle-là on l'a apprise, je me rappelle très bien quand on enregistrait le dernier Parlons Cinéma, quand on venait de finir, oui, de l'enregistrer, on a appris cette information, et du coup on n'a pas pu la caser dans le dernier, donc voilà, c'est le moment. Donc Will Poulter, donc vous le connaissez sûrement des films Les Miller, Le Monde de Narnia chapitre 3 ou Le Labyrinthe plus dernièrement. Will Poulter va reprendre le personnage qu'incarnait Tim Curry dans le film télé de ça, inspiré du bouquin de Stephen King. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, Morgan, d'abord, puisque t'aimes bien cet acteur, donc je te laisse commencer.
J'adore cet acteur et j'avoue que j'y avais pas du tout pensé par rapport au choix de casting. Il faut savoir qu'à la base, j'étais plutôt, je fantasmais beaucoup sur Hugo Weaving. C'était lui que je voulais voir sous les traits du clown. Et quand on m'a annoncé le prénom, j'étais vraiment surpris et je suis impatient parce que c'est un acteur qui a énormément de talent. Il peut jouer très bien l'abruti benet, super drôle dans Les Miller, et il peut camper un bel enfoiré dans Labyrinthe. C'est un acteur avec énormément de gueule, beaucoup de talent, et son jeune âge qui me faisait tiquer au départ, finalement m'a l'air d'être une bonne nouvelle, puisque ça peut apporter davantage de perversité à ce personnage.
D'accord.
Donc, le fait que ce soit un clown qui a un âge assez proche des jeunes qui va traumatiser, je trouve que ça peut être assez intéressant, et choix de Will Poulter, mais franchement, je suis plutôt favorable.
Moi personnellement, j'ai pas vu les films dans lesquels il a joué, donc je pourrais pas juger de son jeu d'acteur. Par contre, moi, je sais que ça a fait pas mal parler sur internet par rapport à son jeune âge, justement. Mais je pense que, enfin, derrière le maquillage, s'il avait 50 ans, on le verrait pas. À mon avis, c'est pas le souci principal. Après, si tu dis que c'est un bon acteur, je te crois, il n'y a pas de souci. J'étais même pas au courant qu'ils allaient refaire un film ça.
C'est tant mieux parce que le téléfilm est vraiment mauvais, quoi. À part l'interprétation de Tim Curry.
Voilà, c'est ça.
Je trouve le téléfilm
de ce que j'en ai entendu parler, c'était assez mauvais. Sauf Tim Curry qui a apparemment.
Il y en a beaucoup qui l'aiment, hein, quand même, ce téléfilm.
Ouais,
je pense qu'il y a un rapport à l'enfance aussi,
voilà,
parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont
peut-être
vu en enfance,
qui ont été traumatisés par le Tim Curry,
moi,
tout ça.
Moi, je l'ai vu à 17 ans, moi. Donc...
Ben, moi, je l'ai jamais vu, et en plus, ça, c'est un des seuls bouquins. Pourtant, je suis un fan de Stephen King, c'est un des seuls bouquins que j'ai pas lu de lui. Enfin, en plus, c'est deux parties. Donc, je sais vraiment pas de quoi ça parle, je suis impatient de voir ça quand même. Eddy, qu'est-ce que t'en penses ? Si t'as un avis dessus ou pas du tout ?
Non, je m'en fous.
D'accord, ok.
Non, mais c'est, voilà. ça m'intéresse pas du tout. Enfin,
Ok.
Voilà.
T'aimes pas les clowns.
Non, c'est pas ça, mais c'est jamais. Enfin, le téléfilm, c'est vrai que tout le monde m'en a parlé, mais j'ai jamais ressenti le besoin de le voir.
Moi, j'ai juste vu les images assez kitsch quand même. J'ai vu quelques bandes annonces, etc. Ça avait l'air assez kitsch. Mais bon, voilà. C'est culte en partie pour ça, donc voilà. On passe à la news suivante, donc Indiana Jones 5 qui est confirmé, qui est en production. Il n'y a pas encore il n'y a pas encore de script, mais Kathleen Kennedy, donc la productrice et la tête pensante de Lucasfilm, a annoncé dans Variety, Vanity Fair, pardon, que ils ont lancé un nouveau Indiana Jones, puisque la saga a été rachetée par Disney. Avec le rachat de Lucasfilm, donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, on n'a aucune information sur le casting, sur le réalisateur, sur quoi que ce soit. Mais est-ce que ça vous intéresse de voir un nouveau film Indiana Jones au cinéma? Voilà.
Honnêtement.
Ouais.
Non.
D'accord.
Enfin, moi, je suis assez circonspect sur le. Si j'arrive plus à parler, je suis assez circonspect sur le projet. Pardon.
Vincent.
Et c'est ça. Oui, je fais mon Vincent. D'ailleurs, Vincent, si tu nous écoutes. Et en fait, je vois pas. À la fois, je vois pas l'intérêt de continuer la franchise, parce qu'a priori ce serait même pas avec Harrison Ford. Moi j'avais entendu parler de Chris Pratt.
Ouais, c'est ça, c'est
et ça me fait un peu chier, parce que bon, Chris Pratt, les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World et compagnie,
ça va faire beaucoup de trucs.
Ça me fait chier, parce que j'ai pas envie que ça soit un acteur qu'on relègue uniquement en blockbuster. J'aimerais bien le voir dans d'autres choses maintenant. Et en fait, je sais pas, c'est une annonce qui ça fait vraiment, on relance la franchise pour le fric en plus. Donc voilà. Après, moi, j'ai jamais été très très fan d'Indiana Jones. Ça fait partie de ces films que j'ai pas découvert étant petit, que j'ai découvert très récemment. Je les ai vus l'année dernière. Et j'aime bien quoi, mais.
C'est pas ton truc quoi. C'est pas.
C'est ma cam, hein, ce genre de truc. Hein, les grosses aventures et tout, j'aime bien, mais je sais pas, j'ai pas plus accroché que ça. Après, d'accord. Bon, la dernière croisade, j'aime beaucoup, mais. Mais voilà. Donc là, non, je suis un peu dubitatif quoi. Ça se fait, c'est bien, j'irai sûrement voir ce que ça donne, mais j'attends pas ça et je vois pas forcément l'utilité pour autant quoi.
Personnellement, je suis un très grand fan de la saga, je pense que c'est. Ça étonne personne. Voilà, donc je suis un peu dubitatif face à cette annonce. D'un côté, ça me paraît intéressant parce que avec ce qu'ils annoncent. Pour Star Wars, etc., ils ont l'air de un peu plus respecter la franchise d'origine que George Lucas quand il avait retouché à la franchise Indiana Jones et Star Wars. Et du coup, ça me paraît assez intéressant, mais j'attends vraiment d'avoir des annonces de noms. J'aimerais bien que ce soit Steven Spielberg qui le réalise, parce que. Pour moi,
à mon avis, tu peux te brosser.
Voilà, c'est ça. Mais parce que maintenant, c'est chez Disney et Steven Spielberg. Je ne sais pas s'il accepterait de faire des films avec Disney. Mais voilà, je suis quand même content, parce que j'adore ce héros. Mais sans Harrison Ford, sans Steven Spielberg, ça va faire quand même beaucoup. Il va falloir en faire beaucoup pour pouvoir m'intéresser encore à ce personnage. Mais je pense que il y a encore plein d'histoires qui n'ont pas été racontées sur ce personnage. Je pense qu'on peut encore développer la mythologie. Et il y a encore pas mal de trucs qu'on peut faire dessus, je pense.
Si c'est sans Harrison Ford et que c'est une suite et pas un préquel, moi je pense qu'il faut carrément faire un reboot en fait. S'ils veulent vraiment toucher à la franchise, je pense que c'est même pas. Enfin, c'est pas la peine de.
Ouais, je pense aussi.
Parce que du coup, un nouvel acteur et s'ils mettent un nouvel acteur, bon, à moins que ça soit pour raconter vraiment la jeunesse de Indiana Jones.
Comme ils l'ont fait au début du 3.
Ouais.
Ouais
ils avec sa superbe mèche. Mais je sais pas. Moi, je.
D'accord. Non. Morgane, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, Indiana Jones, j'ai vu que le premier, je n'ai pas aimé. J'ai vu le deuxième, je l'ai aimé. J'ai pas eu le besoin de voir le troisième ni le quatrième, ça m'intéresse vraiment pas.
D'accord.
Cette franchise m'a jamais tellement passionné.
T'as bien aimé le deuxième ?
Ouais, j'ai bien aimé le deuxième. Le premier m'a beaucoup ennuyé, mais j'ai adoré le deuxième.
Ah, le deuxième est excellent, mais.
Ouais. Ah, j'aime pas du tout le deuxième.
Ouais,
c'est bien celui-là où il mange. Enfin,
le cerveau de.
Ouais. Ah, ouais.
C'est celui-là, oui.
Très très bien celui-là.
Et il est plein de ruptures de ton, je trouve, ce film, et ça lui va pas du tout. Enfin, je comprends pas. Et je comprends pourquoi Spielberg lui-même désavoue un peu ce film, parce que.
Il peut désavouer celui-là, mais à mon avis, il a plus à désavouer le 4 que celui-là.
Ah, mais bien sûr.
Sûr.
Mais encore, lynchez-moi si vous voulez, je pense que j'ai passé un meilleur moment devant le 4 que devant le 2ème. Moi, j'aime pas du tout le 2ème.
D'accord. Ok.
Ah mais il y en a qui adorent le 4, hein. Le 4, il paraît que c'est un film honteux, enfin injuste strictement détesté. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, il faut vraiment que je le revoie parce que je l'ai vu une seule fois et j'étais vraiment pas objectif.
Il est pas et... fameux, mais c'est hyper poussif de.
Ouais, mais juste, enfin, après, tu vas me dire dans le 2 quand il saute de. Quand il saute de l'avion avec la avec le canot flottant,
oui,
tu sais, enfin voilà.
C'est la même chose. Hein.
C'est un peu la même chose, mais voilà. Donc ça a toujours été un truc.
Mais non,
un
mais
peu...
de toute façon, aujourd'hui, on serait qu'on divague un peu là, mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance à les gens n'aiment plus. Les gens se forcent pratiquement à ne pas aimer une franchise qui revient un peu sur le devant de la scène comme ça.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est un peu, j'ai un peu cette sensation là. Alors bon, c'est pas le cas pour Mad Max apparemment, hein. mais je sais pas, j'ai un peu l'impression que c'est l'impression que ça me donne, c'est que les gens quand on essaie de sortir une franchise comme ça qui a été un peu, enfin qui est pas oubliée, mais qui est plus sur le devant de la scène depuis longtemps, voilà. Enfin moi quand je vois les réactions sur Jurassic World et tout, je suis assez d'un côté, t'as les puristes qui non, on n'y touche pas, c'est comme ça, et puis et tout, mais non, mais enfin. Donc, je sais pas. Ça me... Et je pense qu'Indiana Jones 4 a vraiment souffert de ça aussi. Hein. C'est,
oui.
Mais après, t'as certains films qui le cherchent. Hein. Terminator 5, ça se voit que ça. Enfin, j'en mets ma main.
Alors,
que ce film sera une catin.
Ça fait 3 épisodes que tu parles de Terminator 5. ça fait...
J'ai un problème contre ce film avant qu'il sorte.
Alors que moi, alors là, chez moi, si vous voulez, mais moi, le film m'intéresse. Hein. Je suis impatient de voir ce film.
C'est parce que t'es fan de Game of Thrones, c'est pour
non,
ça.
Pas, alors,
parce qu'il y a
Emilia Clarke. Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, pas du tout.
Je l'avais même pas reconnu, pour vous dire. Je savais pas que c'était elle.
Mais bon, voilà. Un autre sujet à débat encore, sûrement dans un prochain. Voilà. On va passer ensuite à un film que qu'on va mettre tout le monde d'accord, que tout le monde est impatient de voir.
Je pense.
Le prochain film de Martin Scorsese, donc Silence, avec Andrew Garfield. On a vu la première image, donc ce sera l'histoire d'un prêtre catholique qui va au Japon, je crois.
C'est ça.
Donc on n'en sait pas.
C'est des missionnaires chrétiens qui sont victimes de persécutions.
Voilà. Et du coup, on a eu une première image. Voilà, ça nous révèle pas tellement. On voit juste un peu le look barbu, longs cheveux de Andrew Garfield. Donc voilà.
Ah bah ça change, hein.
C'est plus Spider-Man. Hein. C'est plus Spider-Man.
Non, voilà.
Du coup, voilà, je sais pas si. Bon, déjà, je pense que vous êtes très impatients de voir le film. Il sortira peut-être même pas en 2015 ou alors vraiment en fin d'année.
Il est prévu pour 2016,
ouais,
hein, je
donc,
crois.
Donc voilà, votre avis sur le film. Enfin,
bah, moi, j'étais pas. Tout le monde a adoré le Loup de Wall Street, le dernier Scorsese. Sauf que moi, Scorsese, c'est pareil, je l'ai découvert ça doit faire à peu près un an maintenant, que j'ai pris le temps de regarder beaucoup de ses films. Je pensais que c'est un réalisateur qui allait pas me toucher, et finalement, je me rends compte qu'il me touche beaucoup et qu'il y a vraiment des films de Scorsese que j'adore. J'ai toujours pas vu le Loup de Wall Street parce que par contre c'est vrai qu'il me tente pas du tout.
Plus, donc
c'est vraiment
j'avoue.
L'un de ces projets qui m'intéresse
pourtant,
pas.
M'intéresse,
alors hein. Que Silence par contre, voilà, Silence c'est Scorsese dans le film d'époque il est bon.
Ouais.
Il suffit de regarder
Gangs of New York.
Le temps de Gangs of New York et le temps de l'innocence qui est vraiment qui est une fresque, c'est magnifique, c'est bouleversant et je pense qu'il est vraiment capable de traiter ça intelligemment. Il a une subtilité de faire qui d'autres films tomberaient facilement dans le pâteau, je pense, avec un sujet comme celui de Silence. Et le connaissant lui, je pense qu'il va traiter ça de manière plus subtile. Quoi. Il y aura une vraie vision d'auteur derrière, mais je m'avance beaucoup en disant ça, mais
ouais.
Voilà. Enfin, moi, en tout cas, ça me tente beaucoup. Puis Andrew Garfield, je pense que ça peut aussi être un vrai tournant pour sa carrière, ça serait bien.
Et puis, enfin, moi, franchement, déjà que Scorsese, souvent, ses films sont concentrés sur les États-Unis, etc. Là, ce sera un peu plus en extérieur, au Japon, en Asie. Ça a l'air vraiment super intéressant, surtout que, enfin, ce qu'il fait au niveau, niveau graphique, etc. Moi, j'adore. Voilà.
Ouais.
Morgan, ce que t'en penses, si t'as vu l'image déjà?
J'ai vu l'image, hein, Martin Scorsese, de toute façon, comment ne pas passer à côté. Et très curieux de voir Andrew Garfield sous la caméra de ce grand réalisateur. C'est un acteur qui a du chien, même s'il s'appelle Garfield.
Mais c'est vrai que Scorsese, ça, enfin, c'est un peu bête à dire, mais ça fait partie de ses réalisateurs. Enfin, tu as du mal quand même à passer à côté quand il sort quelque chose maintenant, parce que étant donné son âge et ouais. tout, et
ça, c'est, tout,
c'est quand même l'un des derniers. C'est l'un des derniers très grands
ouais,
encore en activité,
Hollywood,
quoi.
Donc, ouais.
C'est ça. Donc il est Scorsese bientôt, et il sera vraiment le témoin mm-hmm. d'une époque ouais. du cinéma qu'on connaît plus, quoi. Mm-hmm.
C'est un pionnier du cinéma. Hein. Quand on voit, bon, vous avez pas vu Loup de Wall Street, mais du haut de ses 70 ans, de faire un film comme comme Loup de Wall Street.
Quand on voit la bande-annonce, déjà, on se donne une bonne idée
du truc.
Ça a l'air assez énergique et tout. Enfin voilà.
Il est tout vieux, il est tout petit, mais il est encore bourré d'énergie.
Tiens d'ailleurs rapidement, votre film préféré de Scorsese.
Gangs of New York pour moi. J'en ai pas vu des masses, mais Gangs of New York c'est mon préféré.
Eddie.
Là, tu me poses une sacrée question. Il y en a vraiment. Ça serait Taxi Driver quand même, que je trouve. Voilà, c'est magnifique. Mais après, Casino, je pense.
Moi, personnellement, c'est les Affranchis.
Ouais, j'aime beaucoup les Affranchis. Ouais.
J'aime pas les Affranchis. Voilà, c'est fait.
Bon, ben voilà. C'est les goûts et les couleurs. Voilà. Donc, maintenant qu'on a passé là-dessus, on passait rapidement sur les premières images de The Hateful Eight. Donc, le prochain film de Tarantino, on vous rabat les oreilles dessus. Mais c'est parce que, personnellement, je suis assez fan de Tarantino. Et du coup, on a enfin eu visuel, voilà, je cherchais le mot. Avec les acteurs.
Mais on s'en serait passé.
Alors là maintenant ça va être le débat. Donc déjà dites-moi ce que vous en pensez, Samuel Jackson, etc.
Le casting c'est parfait,
casting
mais alors visuellement les costumes c'est ultra kitsch hein, quand même. Il y a un truc qui me choque. Hein.
Morgan.
C'est peut-être un parti pris, mais...
comme Eddie, pourtant je suis un énorme fan de Tarantino, et déjà dans Django, je trouvais un peu les costumes un kitsch, mais ça passait un petit peu. Là, j'ai peur quand même qu'il se recycle.
C'est un peu costume que tu retrouves au Grévin, quoi. Enfin...
Ouais, ça fait un peu carnaval, quoi.
C'est ça.
Ok.
Et j'ai un peu peur parce que Tarantino, c'est quand même le cinéaste qui aime filmer la violence. Et voir de l'hémoglobine sur des costumes aussi clean que ça, je sais pas, ça, j'ai peur que ça.
C'est l'image que ça renvoie. Ça fait très très propre comme film.
Ouais, ça fait trop propre. Maintenant, voilà.
C'est que des photos.
Visuel par-là, mais j'espère que justement le film ce sera plus crasseux, plus. Il y aura de la sueur, il y aura de tout. Je veux tout ça dans ce film. Et je peux. Mais là, franchement, les costumes, je trouve pas ça beau du tout. Ni badass, ni rien. Je suis un peu sceptique, en fait. Pourtant, j'adore Tarantino et j'attends le film. Qui, d'ailleurs, d'après des rumeurs, ne sortira pas en 2015. On parle déjà d'une présentation à Cannes en 2016.
D'accord. Bon, on va pouvoir attendre. Personnellement, moi, je trouve ça... j'adore les costumes. Je sais pas ce que vous avez contre. Je peux comprendre que ça fait un peu kitsch, etc. Mais... Django, c'était vraiment son hommage au western spaghetti. Et là, je pense que ça va être plutôt son hommage au western classique des années 50-40 américain, où ils avaient aussi des costumes comme ça. Bon, c'était en noir et blanc, donc on pouvait pas voir les couleurs non plus. Mais ils avaient aussi... je me rappelle d'un western sous la neige, je me souviens plus du titre. Mais ils avaient des costumes aussi excentrique un peu, et moi je trouve que ça va très bien avec l'univers tarantinesque, qui est très bien avec l'univers western classique des années 40-50, bien américain, pas les westerns avec Clint Eastwood.
Après ça c'est pareil, est-ce que tu parles d'hommage, l'hommage au western spaghetti, l'hommage à machin, est-ce que ce serait pas un peu moment maintenant qu'ils fassent des films différents, quoi, trucs un peu plus originaux, qu'il arrête justement de faire de l'hommage, d'avoir des références, c'est bien, mais...
C'est la base de son cinéma depuis toujours, de faire de l'hommage.
Bien sûr, mais...
Ce qui est intéressant avec Tarantino, c'est qu'il fait de l'hommage, mais il en fait quelque chose d'authentique. Parce que maintenant, on parle de pas de Tarantino. Par exemple, quand on... Bon, j'en lance pas le débat sur Kingsman, mais on dit « Ah, Kingsman, c'est un délire à la Tarantino. » Il fait de l'hommage, mais...
Je l'ai vu, oui, c'est un peu... Il y a un côté Tarantino, mais je n'ai pas vu le film comme ça, hein.
Ah non, mais après, il y a plein de films qui cassent. On disait qu'il y avait un délire à la Tarantino. Il y a plein de films comme ça. Je trouve qu'il a quand même instauré sa patte, ce mec. Et Mais Mego, je l'ai vraiment, plus je l'envoie et moins je l'aime, parce que voilà, il a beaucoup de défauts, à commencer par le visuel, quoi. Et là, j'ai peur de retrouver les défauts de Django. Et comme Django, bah, j'ai peut-être. Peut-être parce que Tarantino, avec Hateful Eight, comme Django, va faire le film qu'il rêvait de faire. Et comme il est trop en confiance, donc du coup, peut-être qu'il prend moins de risques et qu'il repose sur des acquis, quoi. J'ai un peu peur.
Après, c'est un malin, hein, Tarantino, hein, donc. Ouais.
Bon. Oh, ça me fait mal de dire ça, franchement. Bon. Je l'aime tellement, Tarantino, ça me fait mal de dire ça.
Mais je pense que bon, enfin bref, c'est pas le sujet.
Moi, je suis très confiant, donc voilà, on verra plus tard si, quand on aura une bonne annonce. Enfin, je pense que ça devrait pas tarder, sûrement en été, là on devrait en avoir une. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc un projet de très très longue date, pour ceux qui le suivaient. Paul Greengrass, donc le réalisateur de la trilogie des Bourne et Green Zone, etc.
Captain Phillips.
Oui, Captain Phillips aussi, que j'ai toujours pas vu.
Qui... C'est le seul que j'ai vu de Paul Greengrass, donc voilà.
Réalisateur atteint de Parkinson, voilà. Hein, parce que sa
donc,
caméra
justement,
tient jamais
droite. Il va réaliser un biopic de Jimi Hendrix. C'est un projet qui a été qui tient très à cœur depuis 2009, mais comme la famille, enfin les ayants droit de Hendrix ne voulaient, ils sont connus pour être très durs en affaires, en fait, pour concernant leur les musiques, etc. Et donc ils ont enfin apparemment trouvé un accord. Et du coup, je sais pas si ça vous intéresse de voir un biopic sur le personnage.
Comme pour Will Poulter dans Heat, enfin, ouais, moi je d'accord. m'en fous. Ça m'intéresse pas du tout.
Pareil, j'aime pas Jimi Hendrix, d'accord. En plus, c'est pas mon style de musique. Okay. Et les biopics, ça m'emmerde.
Moi j'aime bien les biopics, mais les biopics. Là ça m'attire
d'accord.
pas.
Ben, moi ça m'intéresse pas mal, comme ça on va pouvoir passer vite, hein, c'est cool. ça m'intéresse pas mal. Je suis
Non, mais de toute façon, c'est le biopic, c'est ça quoi. Enfin, c'est tout le. Comment dire. C'est toute la dualité du biopic. C'est que. Il faut que ça, quand même, ça te tente un peu au départ.
Oui, bien sûr. Donc moi ça me tente énormément, j'adore l'artiste et j'ai lu pas mal de biographies sur sa vie et il a eu une vie assez intéressante, donc ça m'intéresserait de le voir au cinéma. Après, Paul Greengrass, je suis pas très fan, de voir un film sur Jimi Hendrix qui bouge tout le temps, ça m'intéresse pas non plus, avec l'atteinte de Parkinson comme tu l'as dit, donc j'espère qu'il se calmera sur ces effets là, mais voilà, ça m'intéresse toujours. Reste à voir quel acteur il va trouver. Apparemment, il y avait Anthony Mackie, donc qui était le faucon dans Captain America 2, qui était déjà en liste, mais il a quitté le projet. Donc voilà, c'est tout. On va passer à la dernière news. Non, l'avant-dernière, pardon. Donc ça, c'est très rapide parce qu'on vous en a déjà parlé, mais là, c'est confirmé. Donc on voulait quand même vous le dire. Donc Brad Bird qui on vous avait dit dans le premier épisode qu'il allait scénariser Les Indestructibles 2. Et là, on est sûr qu'il le réalisera et que ce sera son prochain film.
Champagne. Voilà.
Donc Morgan est très content. On est tous très contents, j'imagine.
Ouais. Ah oui,
donc,
oui.
Voilà, Morgan, si tu veux.
Je suis comme un oiseau.
tu voulais.
Parce que Bird.
Oui, d'accord.
tu voulais dire quelque chose par rapport au film ou.
Ouais. Ça y est, je crois qu'il l'a dit.
Ouais, voilà, je suis content. Non, ça. Mais belle mentalité de chez Pixar de garder les mêmes équipes à chaque fois. Ils refilent pas les suites à des faiseurs, à des incompétents. Ils essayent, voilà, comme chez Disney, voilà. Ils essayent de garder la même équipe, le même réalisateur, et voilà. Et je pense qu'il, logiquement, c'est bien parti pour que j'adore Les Indestructibles 2. Maintenant, les suites chez Disney.
Non, mais.
Ah, ça voilà. dépend.
Ça dépend, il y en a quand même des très mauvaises. Ouais.
Oui, ah bah oui, ça c'est sûr.
Donc voilà, moi je suis très content. Eddie est sûrement très content aussi.
Donc
voilà. On va passer ensuite à la dernière news avant le débat. Donc on a eu une première bande-annonce de Crimson Peak. Il faut rajouter le devant parce que voilà. Donc le prochain projet de Guillermo del Toro. Donc Morgan ne l'a pas vu parce qu'il veut pas se faire spoiler le film, ce qui est tout à fait normal. Eddie et moi-même nous l'avons vu, donc je vais d'abord laisser Eddie en parler, ce que t'en as pensé, si t'es impatient de voir le film, etc.
Bah, Guillermo del Toro, qui est un réalisateur que je suis. Enfin, c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais c'est vrai que je suis pas forcément sa carrière. Enfin, moi, j'ai pas vu tout ce qui est Hellboy et compagnie, ça m'attire pas. Par contre, j'avais gardé un bon souvenir du Labyrinthe de Pan, qui était très bien fait, enfin très bien écrit surtout, je trouve. Et puis évidemment Pacific Rim dernièrement, que ouais, j'avais beaucoup aimé aussi. Et c'est marrant, mais Crimson Peak, ça donne un peu l'impression que c'est la jonction des deux en fait. C'est l'univers un peu fantasmagorique qu'on retrouve un peu dans le labyrinthe de Pan et tout le côté visuel un peu de Pacific Rim. Et puis bon, y a quand même trois têtes d'affiche qui valent le détour. Enfin, il y a Jessica Chastain, il y a Mia Wasikowska et Tom Hiddleston. Donc oui, moi ça me botte bien. Et puis moi j'aime bien les histoires de fantômes, donc pourquoi
pas. D'accord, ok.
Mais je m'attends pas à un film d'épouvante, par contre.
Donc moi, je suis très très fan de Guillermo del Toro, j'adore ce réalisateur. Si je savais de quoi ça parlait, j'aurais jamais vu la bande-annonce. Sans que ce soit Guillermo del Toro, parce que ce genre de film, moi ça m'attire pas déjà, mais la bande-annonce a l'air vraiment sympa, enfin le film a l'air sympa au vu de la bande-annonce, parce qu'il y a tout l'univers visuel qui est fidèle à del Toro, du coup ça m'intéresse, mais les histoires de fantômes comme ça de base ça m'intéresse pas. Si ça avait été tout autre réalisateur, j'aurais zappé le film et j'en aurais peut-être jamais entendu parler, ou j'aurais pas fait attention au film. Donc voilà, là ça m'intéresse parce que c'est Guillermo del Toro, mais sinon voilà. Donc Morgan, je sais pas si t'as un avis dessus, enfin même sans avoir vu la bande-annonce, si ça t'intéresse de voir le film.
Guillermo del Toro.
Ok.
Voilà.
D'accord.
Tout est dit, je veux le voir.
Sinon, par contre, il y avait quand même une news dont on a parlé vite fait avec Morgan, c'est apparemment ça devrait être confirmé, c'est Asa Butterfield Spider-Man.
On en avait déjà parlé dans le...
Champagne.
Ouais, mais alors ils sont un peu relous parce que on sait pas si, alors ils nous disent que c'est lui, mais en même temps c'est pas confirmé, donc on sait pas si c'est vrai. Alors ce serait bien maintenant que chez Marvel, quand ils veulent faire des news un moment que ça s'officialise,
parce
quoi.
Que tous les trois
parce
jours
que, apparemment, ça aurait été confirmé il y a quelques heures, ça a été confirmé il y a quelques heures apparemment. Il y en a beaucoup qui se disaient, autant hier ils étaient encore sûrs sans être sûrs, mais apparemment ce serait bel et bien sûr.
Ouais, quand ils te vendent la news à 99,99% sûr, ouais. c'est du teasing pour faire du teasing, quoi. Arrêtez votre.
Voilà. C'est toujours ça. Les news de tous les films de super-héros, c'est souvent ça. C'est des rumeurs sur des rumeurs sur des rumeurs,
c'est
sur une annonce
un peu, quand même.
Où on s'attendait depuis. Tous les jours, il y a des nouvelles rumeurs, etc. Donc. C'est pour ça que j'essaye de zapper tout ça, parce que on va pas en parler, c'est pas intéressant d'en parler. Mais là, comme c'est quasiment confirmé et qu'on en a parlé dans le dernier épisode, donc voilà, vous êtes au courant. Peut-être que ce sera Asa Butterfield. Normalement.
Et du coup, comme je l'avais dit dans le précédent, j'irai donc voir le film vu que c'est lui qui incarnera Peter Parker.
J'irai le voir aussi, mais j'ai pas du tout envie que ça soit Asa Butterfield, mais j'irai voir le film quand même. Mais
t'inquiète pas, il grandira et dit.
Moi j'y crois pas du tout, quoi. J'ai un problème. Moi il m'inspire un enfant, mais pas un ado.
C'est
quoi.
Pareil. Hein.
Il a beau avoir 18 ans, je trouve pas. Physiquement il y a un truc qui passe pas, quoi.
D'accord.
Je remets pas en cause son acteur, mais.
Bon, après quand il aura son costume,
non,
on s'en fout.
Oui, ça c'est bien
sûr.
Ouais,
mais c'est toute l'exposition, etc. Je comprends. Ça risque.
Ouais, mais apparemment, il devrait apparaître dans Civil War, apparemment.
Attends,
et on verra pas son costume, on le verra.
Avec tous les personnages qui vont apparaître dans Civil War,
ça
commence à devenir assez lourd. Donc.
Non, mais sérieux, Marvel, c'est les anges de la télé-réalité.
Non,
c'est
mais.
Il y a tout le monde.
Alors, tu sais que je suis très fan, mais là je suis d'accord avec toi, donc c'est qu'il y a un problème.
Civil War, c'est un peu le Avengers bis, quoi. Enfin, j'ai l'impression.
Je
ça
pense qu'ils auraient dû faire
ça,
un film Avengers Civil War, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais.
Ouais.
Oh là là, Avengers Civil Wars après. Oh là là.
Voilà.
C'est un business. Génial.
Tu vas avoir des sous-phases maintenant dans les Avengers.
Ouais.
Phase 1, sous-phase 1, phase 2, ouais, sous-phase 2, sous-phase 2.0,
ça va devenir
5,
comme les comics,
version
hein.
bêta d'Avengers.
Ah non, mais ça va être aussi compliqué à regarder que les bonus du Seigneur des Anneaux dans l'édition Blu-ray de Peter Jackson. Là.
Mais avec enfin, les... ce qui me faisait rire, c'est aller qui se plaignait de Star Wars. Ah, c'est compliqué, la menace fantôme, c'est rien à côté.
Moi, j'ai de l'empathie pour ceux qui connaissent rien à l'univers et qui vont voir les films et qui se disent mais il se passe quoi là, c'est quoi ce truc, c'est
ah, voilà. Donc je suis un peu comme ça.
Ah bah moi je te demande conseil parce que sinon tu finis sous l'exomile. Hein. Enfin c'est.
C'est sûr.
C'est ouais. Une catastrophe. Hein. Moi j'y comprends rien du
pour
tout.
Pour Avengers 2, c'est vrai que quand j'ai vu comment il s'appelle.
The Vision. La Vision en français.
Non, comment il s'appelle? Le Surfeur d'Argent.
Attends. Avengers. Le Surf.
Non, c'est dans les 4 Fantastiques.
Quicksilver. Quicksilver.
La preuve que c'est compliqué.
Tu vois, je suis une bille, mais je n'y connais rien. Donc le Quicksilver, je sais, mais attends, mais pourquoi c'est pas le même?
Parce que c'est des problèmes de droit, ça, par contre, c'est pas la même.
Oh là là.
Ah oui, ça c'est
et en plus, ceux de Marvel, ils ont, tu vois, ils utilisent, je sais plus quel nom en français et quel nom en anglais, mais ils ont pas le droit de dire mutant parce que mutant c'est licencié chez Fox. Donc oui. C'est un truc de taré. Hein, c'est, enfin.
Ils peuvent pas dire mutant, mais ils peuvent dire Carrefour.
Putain, il est grave.
Bon, après tout ça, en plus on est parti de Crimson Peak à Avenger, je sais pas comment on a fait. Ah oui, c'est. Ah non, Spider-Man, voilà, c'est ça.
Bref,
Axel, pour conclure, tu peux laisser au montage ma bourde avec le surfeur
ouais,
d'argent,
j'assume. Ok, pas de soucis. Bon, on va passer au mini débat et après on va passer à un débat. On va essayer de faire court quand même parce que on est peut-être à 30 minutes de conversation, donc on va limiter. Donc le festival de Cannes, ça a commencé. Voilà, donc oui. Morgane, si tu, enfin tu m'as dit que tu voulais dire quelque chose.
Oui, c'est que bah moi je suis chaque année le festival de Cannes qui ça me vend du rêve à chaque fois. Voilà, c'est glamour, cinéma, voilà, et cette année le jury est particulièrement intéressant, notamment pour Xavier Dolan. Oui, je fais partie de ceux qui respectent ce monsieur.
Non, bon, pas pour Sophie Marceau.
Bah, Sophie Marceau, elle me dérange pas, c'est plus Sienna Miller qui me dérange, je comprends pas trop ce qu'elle fout là. Et il y a Guillermo del Toro, surtout, ouais. On en parlait, c'est une logique.
Ouais, c'est vrai.
Et cette année, on a quand même des films qui promettent assez. Alors au départ, quand j'ai vu la sélection, j'étais pas convaincu, mais là, quand j'ai regardé la cérémonie d'ouverture avec des extraits de chaque film en compétition, bah franchement, j'ai vu quelques noms qui m'intéressent, le Gus Van Sant notamment.
Oui.
D'ailleurs, il y a eu un nouvel extrait du film, je voulais pas en parler parce qu'on voit quasiment rien. Mais je sais pas si vous l'avez vu, du prochain film de Gus Van Sant.
Oui, The Sixth Street, justement.
Donc il est dans un bois avec un japonais et ils sont coincés apparemment. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris de la bande-annonce. Mais...
c'est un gravity dans les bois, en fait.
Et enfin voilà, donc, ouais, ça avait l'air intéressant, ça, par contre.
Avec ouais. Un japonais.
Donc ouais, Morgane, c'est tout ce que tu voulais dire par rapport... D'accord.
Oui, non, voilà, c'est pour dire que j'adore le festival.
Ok. bon, alors, moi, je veux annoncer que je respecte totalement l'avis de tout le monde. Je veux pas choquer les gens. C'est juste que le festival de Cannes, pour moi, c'est tout ce qui va pas dans le cinéma, en fait. C'est. Enfin, je remets pas en cause certains. Parce que je suis sincèrement convaincu que il y a de véritables cinéphiles qui vont au Festival de Cannes pour voir des films, mais ce qui me dérange beaucoup, c'est tout ce qui se passe autour du festival, le tapis rouge, le tapis rouge, les fêtes, le déferlement de l'argent, ouais. L'alcool, la drogue, tout ça. Ça me dérange beaucoup parce que je trouve que les stars, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas beaucoup, enfin, ils sont pas vraiment des stars. On se rappelle Nabila qui avait monté les marches, donc ça c'était assez amusant à voir.
Non, le plus amusant, ouais, c'est enfin, Zahir. Voilà, donc, parce qu'elle a les robes trop moulantes, elle arrive donc, pas à monter les marches. Ça me fait rire, moi.
Donc voilà, ça c'est ce qui me dérange vraiment. Les stars, entre guillemets, n'y vont pas pour le cinéma, ils y vont pour s'éclater la gueule.
Oui, c'est ça, c'est le monde voilà. du paraître,
et
vraiment.
Si tu vas pas au festival.
Ouais, il y a deux versants, il y a deux côtés. Il y a une partie, la partie de l'amour et la partie.
Enfin, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Mais oui,
moi,
c'est
pas ce qui m'intéresse.
Cannes, hein,
mais le truc, c'est que moi, j'ouvre mon site de cinéma, enfin d'actualité cinéma. J'ai que ça. J'ai truc qui monte son cul sur le festival de Cannes. Si t'es pas au festival de Cannes, eh ben t'es personne. Voilà. Ça me dérange vraiment. Et je trouve que c'est vraiment très. Enfin. J'arrive pas trop à poser des mots, mais
en fait ça renvoie un peu l'image que ça renvoie aussi l'image que les gens que le grand public peut se faire aussi, ne serait-ce que des cinéphiles, quoi, que le cinéma c'est aussi réservé
voilà,
à une élite, et je pense que c'est dommage, oui, que ça renvoie cette image là parce que le cinéma c'est pas réservé qu'à un seul public. C'est vrai que le festival de Cannes peut amener, je pense,
parce que
aussi,
tu vois, pour moi le pire c'est celui-là, parce que les Oscars etc, c'est qu'une soirée, là c'est vraiment une semaine où il se passe que ça, où on voit que des gens défiler pour montrer leur gueule, vraiment c'est que pour ça. Il y en a beaucoup qui s'en foutent du cinéma, qui vont là-bas juste pour montrer leur gueule, et puis pour paraître dans les magazines de merde genre People, VSD etc. Et puis après, ils sont contents. Donc, ça.
Ah, bah, c'est la foire à Closer, hein, là-bas. Hein,
voilà,
de toute façon.
Et ça me dérange vraiment. Ça renvoie une mauvaise image du cinéma. Et pour moi, c'est pas ça le cinéma, quoi. Voilà.
Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, le côté branchouille, bobo, fêtard et tout, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse,
les
c'est
films,
voir les réalisateurs, les acteurs en conférence de presse
oui,
et tout, présenter leurs films.
Ça, c'est intéressant.
Moi, Affida Turner,
après, c'est très propre aussi à la Côte d'Azur, hein, tout ça. Hein,
entre Saint-Tropez et tout ça, voilà, c'est...
Quand tu vois tous ceux qui bossent toute l'année, là, enfin, qu'on la vingtaine, qui bossent toute l'année, puis l'été, ben, ils bossent, enfin, tout l'argent qu'ils accumulent, c'est pour aller la flamber, pour se montrer et tout. Enfin, c'est un peu la même chose finalement. Et pourtant, ils font pas de cinéma ou quoi que ce soit. Je pense aussi que c'est
l'ambiance. C'est
l'ambiance
club,
c'est l'ambiance
clubber, etc. Moi déjà, je déteste ça, donc ça rajoute en plus toute ma haine.
Ah oui, mais moi aussi, c'est tout ce que je déteste.
Par contre, les conférences, les films, je les mets pas en doute, c'est très bien. J'aime
ça que j'aime, hein.
Mais à côté il y a tout ça, et ça me dérange vraiment, donc voilà.
Il y a la partie sombre de Cannes qu'on voit,
et puis,
oui,
enfin voilà, donc.
Oui, tout ça.
On va pas faire plus long, vous connaissez nos avis maintenant.
On va pas casser du sucre sur Cannes.
Putain.
Qu'est-ce que c'est drôle.
Ouais, on en mange sans fin.
Ouais, non, si toi aussi tu t'y mets, je suis dans la merde, hein.
C'est le festival,
dis donc. Alors, du coup, maintenant on va passer à un débat peut-être un peu plus intéressant. Donc, comme vous le savez, Mad Max, le dernier Fury Road, donc l'épisode 4 de la saga, est sorti ce jeudi, puisqu'il était présenté au festival de Cannes, ce jeudi au cinéma. Du coup, Morgan l'a vu, il vous en parlera pas parce que. Moi, je l'ai toujours pas vu, donc je vais pas me faire spoiler. On mettra ça de côté. Mais ce qui nous intéresse vraiment, on parle de ça puisque on a remarqué, et on remarque surtout sur les gros films qui paraissent et qui vont paraître, qu'il y a une hype qui est démesurée par rapport au film, et qu'on voit le jour.
Et ça devient
voilà,
super lassant.
Ça devient très lassant. Et c'est impossible d'éviter, pour Mad Max par exemple, quand on va sur les réseaux sociaux, c'est impossible d'éviter tous les trois tweets ou tous les trois sur Facebook, tous les trois images, un truc sur Mad Max. C'est, surtout quand t'es cinéphile et quand tu regardes beaucoup de.
Ah, mais suffit que t'aies liké une ou deux pages de magazine cinéma, t'es foutu. Hein.
Donc, c'est pas. Que pour Mad Max, on prend Mad Max en exemple parce que c'est la dernière grosse hype, même si le film est très bien, Morgan pourra vous l'attester, etc. Déjà je l'ai pas vu, en plus on me donne une idée du film qui n'est sûrement pas la bonne, donc Voilà, je sais pas.
Moi je dirais plutôt, c'est limite si on voilà, m'impose pas d'attendre et même d'aimer un film avant.
C'est ça. Et oui. Voilà, c'est tout.
Et du coup, ça nous... Bah, ça nous dérange tous les trois, puisque... et je pense que ça dérange pas que nous trois.
Mais je pense pas que ça nous je pense pas que ça voilà, dérange ça. Que nous trois. Hein.
Donc voilà, je sais pas si vous avez votre avis sur la question.
Ben Morgane a raison, hein, c'est ça quoi, c'est que du coup on arrive vraiment au stade où ben, en gros tu dis que t'as pas envie d'aller voir ce film là, bah t'es mm-hmm. trop con quoi. Ouais.
Moi, tu vas pas aller voir Mad Max parce que ça t'intéresse pas et t'as le droit, hein, c'est pas.
Mais non, voilà, c'est. Moi, Mad Max, ça me botte pas du tout, bah oui. Et je m'en fiche qu'il soit noté 4,8 sur Allociné et puis qu'il ait 8 de moyenne sur Sens Critique. Enfin, je vais pas aller me forcer à voir quelque chose qui me.
Mais c'est normal.
Qui d'apparence me. Je dis pas que je le verrai pas, mais je vais pas. C'est pas ma priorité à aller voir au cinéma en ce moment. Voilà, moi par exemple, j'attends beaucoup plus Jurassic World, d'accord. Par exemple.
Et tu peux concéder qu'il y a une hype sur Jurassic World comme sur Mad Max, etc. Ah, et moi, je peux concéder qu'il y a une hype sur Star Wars énorme. Même moi, j'en fais. Je l'encourage en plus.
Je crois que c'est rien à côté Mad Max. C'est rien à côté de Mad Max. Ça fait, je crois, depuis Gravity. Et encore, Gravity, c'était rien à côté. Mais j'ai jamais vu une attente avant. Mad Max, on crie au chef-d'œuvre. On crie au chef-d'œuvre avant
qu'il sorte. Ouais, c'est ça. Les gens crient au chef-d'œuvre avant qu'il sorte. C'est un peu la même chose pour Gravity. Et en fait, ce qui différencie Mad Max, Gravity et compagnie de Jurassic World et Star Wars, c'est que c'est, Jurassic World et Star Wars, c'est plutôt une fanbase en fait, qui fait ça. Ouais. C'est qu'il y a une large base de fans qui vont avoir tendance, oui, à te vendre le film alors qu'ils ne l'ont pas vu, à te dire que c'est un chef-d'œuvre et tout. Mais justement, en fait, dans le contexte, quand tu sais que ce sont des fans et que bah il y a vraiment de l'engouement qui est là, tu prends. Moi je trouve ça plus touchant en fait entre guillemets.
Ouais.
Exactement.
C'est l'excitation, voilà. Mais moi je suis le premier à le dire. Hein. J'arrête pas de le dire en ce moment, mais là par exemple, moi j'attends énormément Jurassic World, je me fais plein de théories sur le film. Enfin j'y réfléchis beaucoup. Mais en même temps, je reste conscient du truc. Moi il y a des choses que je vois dans les bandes annonces qui ne me plaisent pas. Et encore au jour d'aujourd'hui, à pratiquement un mois de la sortie du film, j'en suis encore à me dire, peut-être que le 10 juin, je vais pas apprécier ma séance.
De toute façon, on avait parlé dans le premier Parlons Cinéma, on avait parlé de la dernière bande-annonce, et d'ailleurs, en plus, ils n'arrêtent pas de nous balancer des spots TV, ce qui est insupportable.
C'est aux États-Unis surtout, logiquement en France.
Et moi
c'est
au cinéma, je tombe sur la bande-annonce à chaque fois que je refuse de voir, donc je ferme les yeux et je pousse les oreilles.
Ça doit être sympa au cinéma par contre.
Moi j'aimerais bien voir une au cinéma.
Du coup, c'est toute cette. Je te rejoins là-dessus en fait, c'est que Star Wars et Jurassic World c'est vraiment une fanbase, alors que Mad Max, ils sont pas tous à avoir vu les films d'origine. Par exemple, Morgane, toi, t'as pas vu les films d'origine.
J'en ai vu aucun des trois.
Donc, et t'as quand même apprécié. Donc, voilà. Mais t'étais pas celui non plus qui crie au chef-d'œuvre avant de voir. T'es allé le voir objectivement, même si c'était très difficile avec toute cette hype de se focaliser juste sur le film et de pas se concentrer sur tout ce qui a été dit avant.
Je suis d'accord parce que évidemment quand on va voir le film, qu'on le veuille ou non, on se réfère un petit peu à la hype qu'il y a autour.
C'est ça.
Notre avis va finalement en tient compte parce que on se dit bon, même si je suis pas, j'ai jamais fait partie de ceux qu'on dit Miller est un génie, il va nous faire le chef-d'œuvre de la décennie. Ouais. Je l'ai jamais dit. J'espérais. C'est à chaque fois que je vais voir un film, j'espère voir un chef-d'œuvre.
Oui.
Donc voilà, c'est maintenant.
Attends. Hein. Tant qu'à faire.
Attends, quand tu vas voir des trucs comme barbecue ou camping, excuse-moi, mais
chef-d'œuvre de la comédie française, tu peux toujours espérer. Tu peux toujours espérer.
Baby Sting.
Oui, non, mais il y en a justement, mais ces derniers temps, tu peux espérer.
Non. pour Mad Max, le problème, c'est que comment on peut être vierge de tout ça quand on est devant l'écran, on se dit, et puis surtout que. Derrière, j'avais l'impression d'avoir, dès que j'ai mis sur Twitter que je regardais le film, et quand je vois après l'engouement, et même avant le film, il y a tous ceux qui ont vu les trois Mad Max d'avant, c'est très bien. Il y a les puristes.
Ouais, qui, eux,
d'un
je coup
d'un
leur...
seul,
je peux...
mettre George Miller en haut des plus grands réalisateurs actuels, qui se sont refait tous ces films, dont Babe, et qui ont dit que Babe, c'était un film visionnaire. Eh oh, oui, quand même. Hein. que George Miller a réalisé Babe, hein, voilà, Champ des Villes, faut le préciser.
Donc le problème en fait, ça c'est que on est en fait on est amené maintenant à aller voir des films dans les salles, mais on n'y va plus de manière neutre en fait.
C'est ça le souci.
Parce que qu'on le veuille ou non, on a tout le temps on a tout le temps des avis préconçus, et pas forcément les nôtres, mais du coup on est influencé par celui des autres. Et le problème il est là quoi, c'est que les gens ne savent pas se mesurer. Voilà. Et c'est un vrai problème parce que du coup ça, on a du mal à juger un film à sa juste valeur.
On peut pas juger le film pour ce qu'il est véritablement, mais on doit prendre en considération l'aura que les gens lui attribuent et comment ils le perçoivent. Et c'est vrai que c'est handicapant à force. Mm-hmm.
C'est ça. Comme je disais à Morgane en privé, c'est que moi, par exemple, j'ai vu Kingsman, qui est sorti cette année. Je l'ai vu après toute la hype de personnes qui l'ont vu en salle et qui ont dit c'est génial.
D'ailleurs, vous pouvez retrouver la critique sur le site.
C'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Ouais, j'ai ma critique sur le site. Ouais. Et donc oui, moi j'ai vu ce film-là et qui me tentait sans plus quoi. Mais bon, forcément, je suis parti avec l'a priori de me dire bon bah c'est que ça doit quand même être quelque chose. Enfin, tout le monde fait que d'en parler. Et mais je me suis dit, mais en même temps, regarde le film comme un film, quoi. Regarde-le par rapport à tes attentes à toi. Et c'est vrai qu'il y a des trucs super dans le film. J'ai vraiment passé un bon moment devant certains trucs. Mais quand j'y repense dans le fond, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Enfin, c'est assez prévisible. Mais justement, c'est comme tu le dis, Morgane, la différence, c'est que c'est une hype après visionnage.
Après,
On n'a pas vendu Kingsman comme un chef-d'œuvre avant de l'avoir vu.
Exactement.
Mais du coup, tu vois,
moi, c'était
pareil.
La même chose. Hein.
C'est pire.
Ça, c'est le pire.
C'est pire, je trouve. Avant, c'est pire. Après, c'est. Ouais. Voilà, c'est propre à chacun, mais quand on dit le film est un chef-d'œuvre en se basant sur 3 spots TV, 3 bandes annonces et 3 posters, fort quand même. Hein.
Ouais.
Faut être fort là.
Le problème, il est là aussi, c'est que maintenant, un film important qui sort, un gros blockbuster, t'as au minimum 4 bandes annonces.
Et justement, et ça je voulais le dire, je me suis refusé à voir toutes les bandes annonces de Mad Max, j'ai juste regardé la première pour avoir le ton du film, et j'ai vu les bandes annonces après avoir vu le film. Et elles en montrent beaucoup trop.
Du coup, j'en ai vu
c'est
plus.
C'est incroyable.
Sur
l'intrigue, elle dévoile rien, mais sur les images fortes du film.
Ah heureusement que tu. T'as raison de ne pas regarder celle de Jurassic World parce que c'est une catastrophe.
Absolument horrible. Je crois que j'ai l'impression d'avoir vu le film là.
Mais sans mentir, je pense qu'on en a au moins vu 40 minutes.
Moi, c'est encore pire pour Terminator, mais là, c'est pas pour parler de ça. Mais...
C'est vendre, en fait, c'est même plus. Je pense que le. Je sais pas, c'est
mais
bizarre.
Ouais, c'est
plus de la promotion.
C'est vraiment dommage. Hein.
Non, mais de toute façon, je crois qu'en termes de promo foireux, je pense que Jurassic World, pour le coup, bah oui, c'est rien à côté de Terminator 5. Eux, ils font n'importe quoi. Mad Max, ils ont bien géré en termes de montage, les bandes annonces sont super bien foutues.
Mais Jurassic World, c'est bien fait, les bandes annonces.
Ouais, si mais est-ce que ça en révèle pas trop
Si, ça en révèle trop, mais après, en elle-même, les bandes annonces sont bien faites, c'est pas le problème, c'est que celles de Terminator, c'est vrai qu'elles sont ridicules, par contre.
Ouais.
Mother of je sais
non,
plus quoi, là.
Ouais, bon,
mais ils révèlent tout, et on sait toute l'intrigue, c'est incroyable.
Donc,
ça peut faire des faux twists, je me dis, mais en fait, on a même plus besoin de voir le film, quoi. Alors que Mad Max, il spoile rien en termes d'intrigue, en même temps, bon.
On s'attendait pas.
Au sujet des scènes choc du film, des images qui vont marquer. Une fois qu'on aura vu le film, on en voit des bribes dans la bande-annonce.
D'accord.
Quand même. On voit pas toutes les séquences, mais on en voit quand même pas mal.
Et tout le problème du coup que ça peut aussi engendrer là, cette surenchère et toute cette hype qui peut se créer autour de certains films, c'est que du coup quand toi tu te décides à le regarder après que le soufflet est un peu retombé, t'es un peu déçu et t'as tendance à vouloir critiquer le film alors qu'il avait peut-être pas besoin de critiques comme ça.
Oui, c'est comme les films qui cartonnent au box-office. Pour par exemple, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Au début, les gens sont allés le voir parce que comédie populaire. Et plus le film cartonnait, plus les gens avaient cet argument qui était assez récurrent.
Ouais.
Il est bien, mais il vaut pas 10 millions d'entrées. Il ne vaut pas. Et bien là, Mad Max, il y aura un peu ça, je pense. Il y a ceux qui adorent. Il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui adorent objectivement, même si l'objectivité, il y a un gros débat là-dessus. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne sais pas. Et il y a ceux
de comédie, c'est un peu dur. Moi, je dis. C'est assez dur d'être objectif en comédie. Je pense que c'est un genre à part. Je pense que chacun a sa sensibilité par rapport à un type de comédie et du coup.
Chacun son...
Mais c'est marrant que tu parles de par rapport à oui à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oui, c'est sympa, mais ça vaut pas 10 millions d'entrées. Et en fait, ça montre bien l'époque dans laquelle on est. C'est que on est vraiment, enfin voilà quoi. Je pense que le système américain arrive en Europe. C'est qu'on ne juge plus un film sur sa qualité filmique entre guillemets ou cinématographique.
Sur ce qu'il fait au box-office quoi.
Mais sur son rendu quoi. Et c'est le problème quand tu vois qu'aux États-Unis ils calculent pour un film peut faire beaucoup d'entrées mais s'il rapporte pas assez d'argent bah c'est un bide, c'est pour eux un mauvais film. C'est alors que chez nous on juge encore le film sur à la fois sur ce qu'il est mais aussi sur le fait s'il marche bien ou pas au niveau des entrées. En fait voilà, je pense que maintenant il y a beaucoup cette idée préconçue qui est là aussi, c'est que mais tu dis que, enfin je prends un exemple, hein, ouais mais tu dis que t'as pas aimé, mais en attendant le film il a reçu 11 Oscars, il a fait 11 millions d'entrées et tout. J'ai dit oui mais bon, est-ce que est-ce que c'est vraiment si les chiffres faisaient la qualité d'un film, ça
oui,
se saurait.
Oui, c'est sûr. Et tout ça à cause de Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Non mais ça a commencé comme ça en France en tout cas.
Ouais. Ah bah oui, non mais de toute façon, Danny Boone est notre...
Michael Bay à nous.
Problème, hein. C'est ça.
Sauf qu'il fait pas des explosions.
Non, il fait des grimaces.
Mais ouais, du coup, c'est vraiment... Enfin, moi je trouve ça dommage. Moi je parle surtout de Mad Max parce que c'est un film que... Franchement, même dans mon top 5 des attentes de l'année 2015, je l'avais pas mis parce que j'étais... content de voir un film Mad Max parce que j'aime bien la saga, mais c'était sans plus. Je voulais voir le film, mais là c'est quasiment si je suis pas obligé d'aller le voir parce que tout le monde le dit que c'est le meilleur film de tous les temps. Ça réinvente le film d'action. Alors ça, je suis impatient de voir ça parce que
pour en même temps, en ce moment, t'as beaucoup de films qui réinventent des trucs.
On va finir juste l'émission parce que, enfin, moi, si t'avais quelque chose à rajouter par rapport à la hype, tout ça.
Non, j'ai tout dit. Bon, là, je suis au téléphone, désolé. La petite info. On raconte pas en off. Voilà. du coup, j'ai pas suivi la fin du débat.
Non, c'était pas très intéressant. Enfin voilà, c'était sur les, c'était.
Quand je suis pas là, c'est moins intéressant.
C'est pas ce que j'ai dit. C'était juste sur on disait que Danny Boone c'était notre Michael Bay à nous, voilà. Donc va suivre la conversation là-dessus.
Ah, c'est un super analyste. Qui a dit ça?
Mais
ah bah bravo,
merci. Du coup on va passer à la fin de l'émission. Donc merci d'avoir écouté. Je pense que ça fait à peu près 45 minutes, donc voilà, c'est le format habituel. Juste rapidement pour vous annoncer quelque chose avant qu'on se dise tous au revoir et qu'on rappelle toutes nos informations. Parlons cinéma, maintenant on va devenir une émission mensuelle. Donc ce sera tous les 15 du mois, comme ça on enregistrera tous les 15 du mois et ça sortira tous les 16 du mois. J'essaierai de faire tous les 16 du mois la sortie, puisque ça met pas très, très longtemps à enregistrer, ça met pas très longtemps à monter non plus. Voilà, ça sortira tous les mois maintenant. On va parler de toute l'actualité du mois passé. Donc on se retrouve le 15 juin 2015. On vous rappelle, si vous auditeurs, nous vous demandons si vous voulez participer à Parlons Cinéma parce que vous dites j'ai quand même des trucs intéressants à dire et ils parlent pas de ce que je veux, donc voilà, vous pouvez nous contacter sur contact@moviesnerd.net et nous dire quand vous êtes disponible, si vous voulez participer, de quoi vous voulez parler. Je regarderai ça, je vous répondrai, bien sûr il n'y aura pas de souci. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc vous pouvez tous vous pouvez nous retrouver Eddie et moi-même sur le site moviesnerd.net. Morgan c'est sur son blog, vas-y parce que j'oublie à chaque fois, je suis un peu nul, voilà.
Cinemaniac.overblog.com, même si en ce moment il est un petit peu laissé de côté. J'ai pas réécrit.
HTTP /incliné/incliné de petits.
D'accord. Donc voilà, si vous voulez lire des anciennes critiques, hein, si vous avez toujours pas lu, c'est toujours un bon truc à voir.
Ouais, mais je vais écrire là. Faut que j'écrive sur Mad Max, okay, sur la tête de route.
Ça va vous dire que c'est un film génial qui réinvente le cinéma d'action.
Il va vous hyper.
Et que comme Baby Happy Feet, c'est trop bien. L'heure est de Dieu. Non, il me filmait très bien, j'en parlerai.
De toute façon, je pense qu'on en parlera un peu dans le prochain Wisner, donc voilà. Eddie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Sens Critique et sur. Sur Sens Critique et sur Twitter, mais enfin, c'est voilà, Eastark partout, voilà, normalement. C'est ça. Et moi, c'est The Lexal partout sur Twitter, Sens Critique. Morgan, c'est sur. Vodcaster, je n'ai toujours pas regardé ce que c'était, mais j'avais mis un lien, je crois, sur ton truc.
Non, t'as mis un lien Sens Critique et Sens Critique.
Donc j'essaierai de mettre le tien si je m'en souviens. donc c'est quoi Vodcaster?
C'est Cinémaniac. Twitter, pareil. Twitter, c'est. Twitter, c'est @cinémaniac.
D'accord, c'est pas la même chose. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de plus d'actualité cinéma. Et d'ici là, passez un bon mois. Et on se retrouve pour le prochain Movies Nerd qui sortira en début juin. Salut!